Téléchargez des éléments sonores sur le site de sons spécialisés Nouveau Son.
Vous m'appelez quand c'est fini.
Mixez-les selon vos envies et tentez de remporter le grand prix Nouveau Son délivré par le jury de Radio France. Plus d'informations sur nouveauson.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
15h04, tout de suite sur France Inter, tout de suite là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Ce matin, un chômeur a tué un chasseur. C'était un chômeur qui avait un fusil.
Bonjour, je suis Jean-Pierre dans le 31. J'écoute l'émission d'aujourd'hui lundi. C'est formidable. Là. Ce comique là, il est Dassault est battu. Il y en avait un autre qui s'appelait Petit, je crois. Et là, comme comique, là, il est fantastique. S'il tourne à Toulouse, en province, moi, je vais aller le voir. Hein. Oh, comment il s'appelle, ce gars-là? C'est fantastique. Mais bon, j'ai jamais autant rigolé. Hein. Sérieux, allez, salut.
Franchement, trop de feignants chômeurs, quoi. Parasites de notre société, hein, je veux dire, faut se remuer, quoi. Coup de pied au cul. Hein.
Daniel, je suis triste. J'aime vos émissions, je les écoute avec intérêt, même quand je ne suis pas d'accord avec les thèses que vous défendez, ce qui arrive quelquefois. Mais là, je suis triste, parce que je suis persuadée que c'était un comédien, et un mauvais comédien, qui nous a servi un ramassis de clichés absolument nauséabonds. Et ce n'est pas digne de vous d'avoir recruté un mauvais comédien pour jouer ce rôle.
Êtes-vous en activité ou en veille? Il parle comme mon ordi.
Au début, j'ai cru que c'était pour rire. Dans mon tracteur, j'ai pas la radio. Alors du coup, j'ai entendu que le dernier quart d'heure de l'émission d'hier, quand je suis repassée par la maison. Je me demandais quel était le thème du jour. Et là, j'entends un gars débiter des âneries comme s'il voulait gagner un concours. Imbu de lui-même au point d'en être imbuvable pour les autres, et que même à la radio, ça se voyait qu'il était propre sur lui. Je me suis dit, tiens, Mermet fait dans le comique aujourd'hui, dans la caricature. Et puis d'un coup, j'ai réalisé que non. Le gars, c'était un vrai. Mais s'il vous plaît, me demandez pas un vrai quoi. Autant que possible, j'évite les grossièretés. C'était Christine du Limousin.
Oui, bonjour, Benoît, dirigeant d'une société de conseil en ingénierie. Je me permets de vous appeler France Inter par rapport au reportage sur Sébastien pour vous signaler que vous avez choisi d'interviewer quelqu'un qui est néfaste pour le métier de consultant, soit en ressources humaines, chasseur de tête, conseil opérationnel, voire même de simple employeur. Pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et je pense que cette personne n'aime pas les gens. Et s'il y a un loser, c'est lui. Bonne soirée.
Oui, bonjour les amis. L'émission d'aujourd'hui m'a vraiment donné la pêche. Ça alors, c'est très bien pour commencer la semaine. Et ben, voilà. Mais on ne sait jamais, je signale mes compétences. Alors, je sais faire le ménage, la lessive, la cuisine, anglais parler fluently, études latin, grec et philo. Par contre, je suis un peu old. Alors, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous pouvez rappeler le passé. Merci.
Merci pour tous ces messages, cher AMG. Vous avez été très dur. Enfin, pas seulement, mais quand même, c'est pas mal. Aujourd'hui, une nouvelle aventure dans la Basse-Ulysse. On va retrouver François Ruffin dans, là aussi, des aventures. Je vous en dis pas plus. Encore quelques messages et on y va.
Mais qui a fait l'œuf, qui a fait la poule? Il y a quelques décennies, les lobbies ont imposé au peuple la manière de produire de l'énergie électrique tout en arguant un pétrole trop cher et l'ineptie de l'indépendance énergétique. Une production centralisée au moyen de centrales thermiques devait produire 1000 TWh à l'horizon des années 2000 tout en laissant les miettes aux énergies alternatives. Pour justifier cette production démentielle, il fallait alors que le bon peuple consomme sans compter, ce qui fut fait par l'intermédiaire de l'installation à grande échelle du chauffage électrique. Les trois quarts des nouvelles habitations en seront pourvues. L'électroménager et la climatisation feront le reste. Prise au piège mais consentante, la population s'exécuta dans l'idéal de la croissance exponentielle et du bonheur. Consommer toujours de plus en plus. Mais la demande n'a jamais pu atteindre cette offre démesurée. La consommation actuelle étant bien en deçà de la moitié des prévisions annoncées. Délibérément trompé, le peuple est enfermé dans cette boîte de Pandore. Seuls quelques agités du bocal tentent d'expliquer que l'on peut produire mieux et plus propre en relocalisant la production. C'est ce que nous tenterons de faire au Café Repère de Genolac le mardi 23 avril à 20h30 en invitant Simon Cossu, directeur régional d'Enercop, producteur d'énergie alternative de l'avenir.
Bonjour, c'est l'association Nouvicelle qui se bat contre l'implantation des 1000 vaches et son méthaniseur sur les communes de Druca et Buigny-Saint-Maclou. Le promoteur a obtenu le permis de construire du préfet et a commencé à terrasser alors que le délai de recours n'est pas épuisé et que pendant ce temps-là, le préfet ne nous communique pas le dossier du projet au motif qu'il est à caractère économique, donc secret. Il paraît que nous vivons une période où la transparence est de règle. Merci la République démocratique et son sens de la transparence.
Salut Daniel, salut tous les AMG. Dans le cadre de l'Université populaire et citoyenne d'Auvergne, nous vous signalons la tenue du 7e, eh oui déjà, Festival du film engagé, qui se tiendra cette année à Romagna, dans la proche banlieue de Clermont-Ferrand. Il se déroulera du vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 avril, ce week-end donc. Et comme d'habitude, ce festival du film engagé va balayer plein de sujets. Entre autres, une soirée d'ouverture avec tous cobayes, une matinée spécialement d'ouvriers avec les films des Mutants de Tanger. D'ailleurs, on peut voir notre programme sur leur site. Tant qu'il y aura un blocus sur la Palestine, les médicamenteurs, tout est dans le titre, une séance sur les problèmes de la science actuelle, sur l'agriculture, les Roms, voilà. Toujours en prix libre et avec le pinard et la bière bio. On vous attend. C'était Didier à Plaza dans le Puy-de-Dôme. Au revoir.
En garde ! Ah ! Debout, roulez en avant.
Vous êtes au Sri Lanka. Il y a plein d'enfants soldats. Les enfants soldats, là-bas, ils s'en battent pas. Il y a un problème avec la Kalachnikov. Ils la jettent, ils vont en voler une à côté.
Et comment ça se fait que manager à l'international, on se retrouve en tenue vert kaki hein.
Eh bien, justement, si on est confronté à ce genre de situation, en fait.
En garde ! Roulez en avant ! Debout ! Roulez en avant ! Debout ! En garde !
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, les petits soldats de l'humanitaire.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, monsieur.
C'est pour aller à Marc-Église.
Oui, c'est moi que vous avez
c'est moi.
Appelé.
Bonjour.
Bonjour. Parce que là, Marc-Église, je vous dépose une adresse bien précise, alors non
c'est... Bah oui, mais je connais pas l'adresse.
Mais là, on va le savoir, là, en y allant, non
J'espère, ouais. La société Galice, ça vous dit quelque chose? Bon.
Parce que c'est... là, on part à la campagne, dans un petit village.
Ouais, mais ça doit être ça. Là, c'est une société qui se charge de former les expatriés, et puis tout ça, à l'aguerrissement, au cas où il y a des prises d'otages, des choses comme ça. Donc j'y vais comme journaliste, quoi, s'il vous plaît.
Mais franchement, je connais pas.
Moi, je vais là-bas pour me former parce que, si vous voulez, j'ai un petit complexe. Mon patron, c'est un vrai grand reporter, vous voyez, qui part toujours à l'international. Mmh. Il est en Irak, en Afghanistan. Il a été, ou encore, en Palestine, il y va régulièrement. Mmh. Puis moi, bon, en général, je vais à Maubeuge, à Compiègne, vous voyez. Plus loin que quand je vais à l'étranger, c'est pour aller à une soirée Euro-Million à Moucron, à la frontière belge, quoi. Donc, oui. Vous voyez, je vais essayer de me former à une autre envergure, quoi.
Oui.
On passe pas comme ça d'un seul coup de petit reporter à... Oui. De petit rapporteur même à grand reporter, quoi.
Oui.
Donc, j'espère que le stage, il va me booster, quoi.
Et donc là, vous venez pour une journée, enfin, quoi ?
Voilà, pour une journée et une nuit, parce que il y a des activités nocturnes.
Ah, d'accord.
Je sais pas trop ce que c'est. Mmh. L'idéal des journalistes, c'est un peu d'aller à l'étranger, dans les zones de conflit où il y a des snipers, des chars, tout ça. Quoi. Bon, moi, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce métier. Et je crois que le plus gros risque que j'ai pris, c'est de rouler un peu vite sur l'autoroute pour pas rater un rendez-vous. Donc ça fait un peu...
Ah oui, d'accord.
Je suis pas un grand aventurier, quoi.
Oui. Ça fait 10 ans quand même.
Ouais, 10 ans. Ouais. Mais comme je vous dis, moi... Je fais Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et puis parfois je descends en dessous de la Seine, c'est le sud pour moi. 13e arrondissement, c'est déjà. Donc c'est pour ça que je vais essayer de suivre un stage pour passer au niveau supérieur, quoi. C'est mon patron qui m'a trouvé ça.
Ah, c'est lui qui vous l'a trouvé, ça?
Ah ouais, ouais, c'est lui qui me l'a trouvé, ouais. Il était, bah lui, il est toujours dans l'avion, vous voyez.
Oui, oui.
Donc il était dans un aéroport, il est tombé sur le Figaro dans l'aéroport. Puis il y avait un article. Il y avait un article, c'était expatrié, stage en situation et escorte armée pour éviter le pire, vous voyez. Mm-hmm. Donc là, ils disent que mieux vaut être désormais armé pour aller chercher du business dans des théâtres hostiles, où le treillis se porte avec la même aisance que le costume trois pièces. Mm-hmm. Donc là, il y a des stages en forêt de Compiègne, avec des instructeurs qui apprennent à se déplacer en toute discrétion, ne pas se heurter aux coutumes locales, réduire la prise de risque à l'aéroport, dans les hôtels ou à des checkpoints. Donc vous voyez, ça, c'est un peu tout ça que je vais apprendre là.
Tout doit être organisé, hein.
Soit c'est des gens sérieux, hein, parce que c'est des anciens du GIGN, je sais pas si vous voyez.
Oui, oui.
L'ancien commandant du GIGN.
Oui, 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 oui.
Et puis pareil pour la DGSE, les services secrets français. Donc, vous voyez, c'est pas de la rigolade. Oui. Quoi. L'objectif, ils disent, ça fait un peu peur, hein, je vais vous dire ça. L'objectif, le stage est l'occasion de développer une formation psychologique et une préparation mentale pour l'appréhension des situations extrêmes, avec un objectif d'aguerrissement développé par une pédagogie d'influence militaire.
Ah oui.
Vous voyez ? Bon, moi, j'ai même pas fait mes 3 jours, alors je peux vous dire. J'étais inapte au service. Alors, je sais pas si je suis trop apte à l'aguerrissement, vous voyez ?
Oui.
Je stresse un peu, quoi. Bon, on verra si demain je suis aguerri mentalement, psychologiquement, pour partir sous les bombes, quoi.
Oui. Voilà. Bonne...
Merci beaucoup, passez une bonne journée.
Au revoir, merci.
Bon. Donc on rentre au centre Thésée, propriété privée, entrée interdite.
Le monde est un endroit horrible. Si vous devez y aller, si vous avez une mission à accomplir, préparez-vous. Embuscade, enlèvement, agression, kidnapping, attentat, émeute, pillage, criminalité de plus en plus élevée. Bernard Kouchner est votre modèle. Vous aussi, vous rêvez de devenir un bienfaiteur de l'humanité, un humanitaire. Eh bien, sachez-le. Il y a des méchants sur la Terre, salariés expatriés ou en déplacement, journalistes, membres d'organisations non gouvernementales, voyageurs d'affaires. Suivez ce stage. C'est indispensable à votre préparation. Maquis de sociétés privées, ces maquis se sont emparés d'un marché juteux, avec des barbouzes plus ou moins mythomanes. Certains tentent d'abuser des investisseurs en roulant des mécaniques, ce qui n'est pas du tout le cas de Galis Sécurité, structure fondée en mars 2007 par Frédéric Gallois. En quelques heures, à 3 jours, de quelques heures à 3 jours dans la forêt de Compiègne, pour des tarifs de 1 000 à 10 000 euros, vous apprendrez comment vous défendre, comment faire face à tous les dangers. C'est cette formation à laquelle nous allons assister et à laquelle encore mieux, en tant que grand reporter, à haut risque, nous allons nous initier jusqu'à 16 heures sur France Inter.
Aujourd'hui, moi j'ai fait le rêve d'une humanité. Wow! Plus humaine, sans haine et sans méchanceté. Solo. Une humanité moins pourrie, où seulement les gens gentils seraient accueillis. Une humanité plus pure, où les gens méchants auraient la vie dure. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui sont méchants, ils me foutent les boules. D'ailleurs, rien qu'à leur sale tronche, ça se voit qu'ils sont pas cool. Un jour, je vais plus tolérer de les voir passer devant ma maison. Et s'ils veulent pas comprendre, j'ai des solutions. Et tous ceux qui pensent pas que j'ai raison, je les bute.
Bon quoi, sérieux? Franchement, j'ai pas raison, non? Ouais. Franchement, hey, si c'est pour buter des méchants, ça va, on peut le faire, non? Sans déconner, si c'est des méchants.
La formation a commencé avant l'heure. On arrive, la salle est déjà pleine de jeunes étudiants qui ont revêtu la tenue khaki. Je l'ai revêtu à mon tour. Donc me voilà en vert militaire. Et à l'intérieur, on introduit des armes, des M16. Je peux rentrer là ou...
Oui, je suppose. Faites-vous plaisir. Je vais vous faire manipuler les armes à feu. Vous allez pouvoir tirer, ce sont des balles à blanc. Voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, sur une arme semi-automatique, à chaque fois, on est obligé de tirer, d'appuyer. D'accord ?
Donc, là, un ancien des services secrets français enseigne le maniement des armes de Beretta aux étudiants en humanitaire de l'école 3A à Lyon, je crois. Tout le monde est en tenue kaki.
Il suffira de retirer le chargeur. Donc là, maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va passer dehors. Et là, vous allez avoir l'occasion de les manipuler, de tirer avec. Et voilà.
Voilà, le stage dure 3 jours. Les tarifs vont de 1 000 à 10 000 euros. Et des instructeurs vous apprennent tout. Vous apprennent à vous déplacer en toute discrétion, ne pas se heurter aux coutumes locales. Ah oui. Réduire la prise de risque à l'aéroport, dans les hôtels ou à des checkpoints. Et voilà, c'est des choses très très importantes. En 2009, 3000 personnes auraient été kidnappées dans le monde. Alors si vous êtes quelqu'un d'important comme un grand reporter ou un homme d'affaires ou un expatrié quelconque, français, bien sûr, français, eh bien, vous courez des risques. Et là, eh bien, ce stage, il est destiné à des étudiants d'une école humanitaire, des étudiants en humanitaire d'une école de Lyon qui ont revêtu pour ce stage leur costume kaki. On leur prête des costumes kaki. Voilà l'humanitaire en kaki. Et ils sont encadrés. Et ce stage est dirigé par des anciens des services secrets français qui connaissent très bien la musique.
Là, on est dehors sous le soleil, près de Compiègne. Il y a les oiseaux qui font cuicui. On sort d'une formation armes pour passer au maniement des armes. Toi, Marc-Antoine, ça fait... tu peux fumer ta clope tranquille, hein, vas-y.
Merci.
Il n'y a pas besoin de se mettre au garde à vous, même si tu es au vert kaki quand tu vois le micro en vert kaki. Vous êtes tous dans l'école 3A ?
C'est ça. Alors, l'école 3A, c'est une école de commerce international et de développement qui, en gros, vise à former des élèves en 4 et 5 ans à devenir des managers à l'international, que ce soit dans les ONG ou dans des entreprises.
Et toi, c'est plutôt ONG ou plutôt entreprise ?
Je suis ouvert aux deux, en fait. Actuellement, j'ai pas de choix encore vraiment arrêté.
L'ONG, c'est une entreprise parmi d'autres ?
Bah, en soi, les outils qu'on nous apprend en école, etc., ça reste les mêmes, que ce soit en entreprise ou en ONG. C'est la manière de les utiliser et le but qu'on cherche à atteindre qui diffère, quoi. Mais les outils de gestion qu'on peut nous apprendre ou les outils de marketing, c'est les mêmes en ONG qu'en entreprise.
Et comment ça se fait que manager à l'international, on se retrouve en tenue vert kaki?
Eh bien justement, pour si on est confronté à ce genre de situation, en fait, pour des gens qui sortent en ONG, c'est quand même souvent sur des terrains de conflit, etc. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un minimum de préalable sur comment réagir, etc. Et
tu penses que ça va te servir, le maniement de la Kalachnikov?
Non, ça, je pense que c'est plus pour nous faire passer le côté, on a vu une arme, on l'a touché, on a vu ce que ça faisait tirer. Et voilà, quoi.
Bon, moi je vais voir parce que la seule arme que j'ai maniée jusqu'à maintenant, c'était un pistolet à air comprimé pour tirer dans les ballots de paille chez ma grand-mère, quoi.
Pareil.
Je vais vous demander de passer un par un, une par une, pardon.
Ah non, mais il compte aussi, il le fait aussi en fait.
Monsieur Ruffin participe aux événements.
Voilà.
Ouais. C'est l'observation participante.
L'observation participante. Vous êtes au Sri Lanka, il y a plein d'enfants soldats. Les enfants soldats, là-bas, ils ne s'en battent pas. Il y a un problème avec la Kalachnikov, ils la jettent, ils vont en voler une à côté. Bon, maintenant, il va falloir sécuriser cette arme et régler le problème. Allez-y. Vous trouvez cette arme sur le terrain, vous devez la sécuriser.
Vous êtes allé au Sri Lanka?
Pas encore.
Et vous êtes allé où si vous n'êtes pas allé au Sri Lanka alors?
Dans de multiples pays.
Comme?
Sur le continent africain. J'ai vu tomber. Sur la péninsule arabique également. Et puis en fonction des propositions, des contrats.
Des contrats?
Des contrats, oui, je suis contractuel.
D'accord. Mais avant vous étiez dans les services secrets, vous étiez où?
Dans les services spéciaux, oui.
Et là vous êtes allé dans quel pays alors pour la DGSE?
Ah ça, vous savez aussi bien que moi. Je vais pas donner de vous répondre. Je ne suis pas tenu de vous répondre à ce genre de questions.
Moi, je peux les poser quand même.
Ça n'empêche pas. Vous avez regardé la chambre?
Bah ouais. Il n'y a rien?
Il n'y a rien, donc l'arme est claire.
D'accord.
Donc maintenant, il faut la percuter.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, ça.
Donc là, on cherche la cartouche dans l'herbe.
C'est pas grave, on la retrouvera.
Parmi les pissenlits. Ah oui, vous cherchez le chargeur. Je l'ai piqué pour le ramener à mon patron.
C'est journaliste.
Voilà, Daniel. Les militaires, on les aimerait bêtes et méchants. Ça me ferait un meilleur reportage. Mais c'est le problème de la réalité. Ça colle pas toujours au cliché.
Et vous lâchez d'un seul coup.
Là, les gars autour de moi, ils sont sympas, ils discutent tranquillement, ils rigolent avec moi. Ils sont intelligents. François, là, par exemple, l'ancien de la DGSE qui m'enseigne le maniement des armes, eh ben, c'est un AMG. Ouais, un auditeur modeste et génial. Il écoute là-bas si j'y suis. Il adore ça. Il m'a même demandé un autographe pour sa femme. Et on va poser ensemble, côte à côte.
Et vous lâchez d'un seul coup, il fait son travail.
Lui avec sa Kalachnikov, moi avec mon micro, chacun avec son arme.
Et, ben, main gauche,
et pourtant, ouais. Ça reste un barbouze. C'est ça qui est beau dans la vie, non? J'aimerais bien qu'il me raconte toutes les opérations, tous les coups de tournée auxquels il a participé. Parce que les petits soldats de la France-Afrique, c'est aussi eux. Je crois que pour faire parler un ancien de la DGSE au service action,
d'accord.
Je suis pas prêt.
Edwige, ils ont tourné déjà?
T'as vu OSS 117?
Non.
Non? T'as pas vu les OSS 117?
Non.
Ah, oh, c'est génial. C'est l'agent secret, c'est l'homme. C'est toi dans la DGSE.
Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je me reconnais pas là-dedans. Avec du jardin, c'est ça?
Ouais.
Non, je me reconnais pas du tout là-dedans.
Et t'écoutes Monsieur X?
Le samedi, oui, si j'ai le temps.
C'est pas toi qui informe Patrick Spéno, c'est pas toi, Monsieur X.
Non, c'est pas moi. Non, par contre, je lis ce bouquin.
C'est moi la dernière.
C'est vous la dernière?
Ouais.
Très bonne émission aussi, ça, Monsieur X.
T'en apprends sur ta propre boutique, des fois?
Non, mais des fois, on se retrouve dans des pays où, lorsqu'on est sur le terrain, on comprend pas toujours les tenants les aboutissants, puisqu'on est projeté. Tant si c'est dans le domaine militaire que dans le domaine privé, lorsqu'on écoute ce type d'émission, et ben on comprend certaines choses.
Vous comprenez des fois ce que vous êtes venu faire sur le terrain?
Parfois. Mais des fois, on rentre, on en sait toujours autant que lorsqu'on est parti.
Et des fois, en écoutant Monsieur X, vous vous dites, ben, on n'aurait pas dû y aller?
Non, ça m'est jamais arrivé de me poser cette question. J'étais au service action, ouais. Non. On a un devoir de militaire. Dans le cadre d'une activité militaire, on est tenu de répondre par la positive, bien évidemment.
Tu vois, par exemple, des gens qui sont envoyés en ce moment en Afghanistan qui peuvent se dire qu'est-ce qu'on va faire dans ce merdier.
C'est assez complexe. Maintenant ils répondent à une demande du gouvernement. C'est pas à moi qu'appartient la décision d'envoyer les gens ou non. Autre chose.
Et voilà comment l'on apprend que là-bas, si j'y suis, l'émission des barbouzes. Non, l'émission écoutée par un ancien de la DGSE, François, qui est donc, vous avez compris, formateur et qui est l'un de ceux qui dirige ces stages destinés à ces jeunes ou moins jeunes, il y a d'autres stages français qui sont destinés à se rendre à l'étranger dans des zones à risque, dangereuses. Alors voilà, ce sont des gens qui se préparent à l'humanitaire ou à la gestion d'ONG ou à toutes sortes de missions diverses et variées et qu'il s'agit auparavant d'aguerrir, telle cette jeune stagiaire.
Et toi, t'es déjà parti à l'étranger ?
J'ai fait le Mali et le Sénégal. J'ai fait au Mali un stage dans une association.
Et t'es jamais tombé sur une Kalachnikov comme ça ?
Non, j'ai croisé des militaires ou des militaires sénégalais qui sillonnaient le pays armé, mais après, ils étaient là, je pense, juste pour la sécurité.
Comme plan Vigipirate, Garde du Nord, quoi.
Voilà, un peu pareil, ouais, c'est ça. On peut faire le rapprochement, ouais.
Et qu'est-ce que tu comptes faire après ?
Après, j'aimerais travailler pour les ONG. C'est pour ça que ce stage est très important pour moi. Je pense que c'est une formation un peu indispensable pour les métiers qu'on est amené à faire, surtout à l'école 3A. Donc,
pour l'humanitaire, il faut une base militaire.
Oui, un minimum. Après, ça dépend de quel humanitaire. Hein,
voilà. Donc, je pense qu'on va repasser en cours.
Tu sais un peu dans quelle association tu voudrais travailler ? L'idéal qui te porte.
Ça fait un peu cliché, mais ce serait Médecins Sans Frontières. Mais c'est une histoire... Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ce serait MSF, ouais. Carrément.
MSF, c'est Kouchner, Ronnie Broman et puis
exactement,
tout ça au début.
Exactement, ouais. C'est créé par des psychologues et des médecins. Ouais.
Et les premiers, les pionniers de MSF, de Médecins Sans Frontières, est-ce que tu crois qu'ils seraient venus apprendre dans la campagne Picarde, sous un ciel bleu, avec de l'herbe et des pissenlits, à manier la Kalachnikov en tenue kaki ?
Non, je pense que ça aurait été peut-être mal vu ou... Non, à l'époque, je pense que ça se serait pas... Ça aurait pas été concevable, en fait. Aujourd'hui, plus, parce qu'on sait que... Parce que de plus en plus d'humanitaires sont confrontés à des enlèvements, à des séquestrations, à des assassinats. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui, je pense, indispensable.
Pour varier un peu de la tenue kaki des militaires, d'habitude, les militaires n'ont pas de pissenlit à la boutonnière.
Ben voilà, là, c'est pour un peu innover, changer, et puis il fait beau, donc... Voilà, on met des petites fleurs.
Le truculent contribuable comme un samaritain dévot fond comme une glace minable devant les terribles photos du petit noir crevant dans le sable avec des mouches plein le museau ou du myopathe pitoyable dans sa chaise comme un escargot. Il se jette sur son portable pour promettre à Télémago de remettre une somme considérable par chèque avec plein de zéros. C'est un rite, ce geste affable, comme filer sa pièce au clodo pour conjurer le sort effroyable que cela ne soit jamais notre lot. Soyez bon, soyez charitable et soyez généreux, c'est beau. Le dévouement, c'est admirable et ça se déduit des impôts. Quand on a du blé plein ses étables, on prend vite des réflexes de veau. Faire l'aumône au bon misérable plutôt que de payer des impôts. Distribuer de jolis cartables et des stylos neufs aux marmots. Et traiter les profs d'incapables en laissant l'école prendre l'eau. Certes, il y a des choses critiquables comme quand l'État prend l'apéro. Avec les sous du contribuable, pourrait parfois lui payer un pot. Mais si vous ne trouvez pas équitable qu'on partage un peu le gâteau, faut pas venir pleurer à ma table et loucher sur mes pépitos. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, je paierai ses canons au bistrot. Je serai bon, je serai charitable et l'on pourra me prendre au mot. Quand l'armée sera insolvable, j'adopterai un petit char d'assaut.
Oui ?
Excusez-moi, c'est pour Monsieur Broman, je suis français.
Oui, je vous ouvre.
Je vous remercie. Bonjour.
Bon, bah, c'est la première fois que je rencontre un prix Nobel pour ma part.
Prix Nobel indirect, hein, quand même. Mais vous êtes jeune, vous aurez l'occasion d'en voir d'autres.
Monsieur Broman, j'étais en reportage en forêt de Compiègne. En fait, j'allais là-bas pour suivre un stage d'aguerrissement mental, si vous voulez, parce que je suis un petit reporter qui, depuis 10 ans, va au maximum à la frontière belge ou à Monaco. Et j'avais décidé de devenir un grand reporter comme mon patron Daniel Mermet et de pouvoir partir en Irak, en Afghanistan, en Palestine, en Amérique du Sud et puis tout ça. Donc il fallait, bon, un vrai stage. Et là, il y avait un stage avec des anciens de la DGSE et des anciens du GIGN. Normalement, c'était destiné aux cadres expatriés qui travaillent dans des zones à risque. Et j'arrive là-bas et en fait, je me trouve au milieu d'étudiants cool, sympas, d'une école de commerce et de développement humanitaire qui s'appelle 3A, qui est située à Lyon. Avec ces étudiants, on manie la Kalachnikov, on manie le M16. Et je demandais aux étudiants, bon, ben, d'abord, qui était leur modèle. Ils me disent, ben, nos modèles, c'est Médecins sans frontières, c'est Bernard Kouchner, c'est Ronnie Broman. Et ben, je me suis dit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a 30 ans, Ronnie Broman, avant de partir en mission, il venait suivre un stage commando encadré par le GIGN et la DGSE, à ramper dans les broussailles et à apprendre à charger et décharger une Kalachnikov, quoi.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ?
Bah, ils disent, on sait pas trop, peut-être pas, non.
Non, de ce point de vue-là, ils ont raison, non, certainement pas. Moi, en vous entendant, d'abord, je suis abasourdi. Je ne savais pas que de tels entraînements existaient. J'ai entendu parler d'entraînements pour des cadres, en effet, pour des journalistes également, qui sont supposés aller en opération avec des militaires. Mais des gens qui se destinent à un parcours dans l'aide au développement ou l'assistance humanitaire n'ont vraiment rien à faire dans ce genre d'environnement. La logique même de l'aide, c'est d'être pacifique, c'est un contresens total.
Mais alors, ils disent, c'est pour notre sécurité, parce qu'il y a eu des prises d'otages en humanitaire ces derniers temps.
Jusqu'à il y a 3 ans, donc disons en gros 2007-2008, l'augmentation des incidents dits de sécurité qui affectaient les organisations humanitaires sur le terrain était tout à fait proportionnelle à l'augmentation du nombre de gens qui étaient sur le terrain. Autrement dit, le risque n'était pas plus grand en 2006 qu'il n'était en 95 ou en 85. Et on peut dire que les professions les plus exposées restaient celles de bûcherons, de pilotes, d'ouvriers monteurs dans le bâtiment, bref, des professions que l'on sait traditionnellement exposées. Et puis, ces 2 dernières années sont survenues une série d'incidents, au demeurant extrêmement localisés. C'est la Somalie, l'Irak et l'Afghanistan qui en étaient le terrain, qui en étaient le théâtre. Autrement dit, dans des pays où règnent des situations d'occupation par des troupes étrangères, les organisations humanitaires venant d'Europe, c'est-à-dire associées à ces troupes d'occupation, à ces soldats étrangers, les organisations humanitaires étaient en effet, et restent en effet, exposées. Aujourd'hui, l'Afghanistan est à l'évidence l'un des pays les plus dangereux qui existent.
Alors, ce que vous dites là dans les 3 exemples que vous citez, Irak, Afghanistan, Somalie, c'est que au fond les humanitaires sont en danger quand ils sont liés à des militaires à des militaires occidentaux, quoi.
Oui, quand ils sont liés ou quand ils sont liés réellement ou quand ils sont liés dans l'esprit des gens qui sont de l'autre côté, parce que le lien n'est pas forcément existant. Il peut être simplement de l'ordre de la croyance, de l'analyse politique erronée.
En garde ! Ah ! Debout ! Roulez en avant !
Voilà, on va retrouver Ronny Broman, et qui évidemment sait parfaitement de quoi il parle depuis longtemps, et qui connaît toute l'ambiguïté et la contradiction qui existe à l'intérieur des ONG humanitaires et du mouvement humanitaire. Comment l'on est passé d'un élan indéniablement généreux, engagé, vertueux, jusqu'à la guerre humanitaire, jusqu'à l'impérialisme humanitaire, tant il est vrai que la tyrannie avance toujours avec le masque de la vertu, le masque du bien. Et il faudrait toujours se méfier de ce qui est fait au nom du bien et au nom de la vertu, on le sait bien. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait à chaque fois avoir? Pourquoi est-ce qu'on ne démasque pas cette tyrannie? Eh bien, c'est parce que très souvent, on est aveuglé par l'émotion, par l'exigence de justice face à des monstruosités qui surviennent ça et là. Et on veut absolument que l'action soit forte et définitive et radicale. Et à chaque fois, c'est au nom du bien que les choses les pires se produisent, et ceci depuis très longtemps. On a pu conquérir le monde au nom de la vertu religieuse, au nom de l'humanisme, je pense à la colonisation, et aujourd'hui c'est au nom de la démocratie qui est la vertu actuelle. Concernant l'humanitaire, dans un papier qu'il a donné au Monde diplomatique, Ronny Broman évoque Colin Powell, qui, suite au 11 septembre, dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, déclarait « J'entends réellement m'assurer que nous avons les meilleures relations avec les ONG, qui sont un tel multiplicateur de force pour nous, une part si importante de notre équipe de combat, car nous sommes tous engagés vers le même but singulier, aider l'humanité, aider chaque homme et chaque femme dans le monde qui est dans le besoin, qui a faim, donner à tous la possibilité de rêver à un avenir qui sera plus radieux. »
En garde !
Vous, Ronny Broman, vous avez fait combien d'années sur le terrain humanitaire ?
Sur le terrain, en tout, j'ai dû passer 7 ans.
Et vous êtes allé dans quel pays au cours de ces 7 années ?
Oh là là, enfin l'Afghanistan, le Salvador, l'Érythrée, le Tchad, l'Angola, le Vietnam, le Cambodge, le Mozambique, la Somalie.
Au cours de ces 7 années, dans tous ces pays-là, est-ce que vous avez eu à décharger une Kalachnikov ?
Ah non, je n'ai jamais eu à décharger la moindre arme que ce soit. Je n'ai jamais manipulé une arme de ma vie, à vrai dire. Donc c'est plus simple de le dire comme ça.
Vous avez eu à égorger une poule, vous ?
Non, j'ai jamais eu à égorger de poule, non. Non, j'ai appris simplement à faire un peu de cheval. Et quand les fois où je devais me rendre en Afghanistan ou au Salvador ou dans des régions où il fallait beaucoup marcher, je me suis un peu préparé physiquement, mais enfin avec des baskets et un short. Voilà les seules armes dont je disposais.
À mon avis, hein, si vous avez jamais égorgé de poule et jamais déchargé une Kalachnikov, il est temps de subir un stage d'aguerrissement mental quand même.
Oui, ou alors peut-être de prendre ma retraite. Après tout, je m'approche de l'âge canonique. Mais en effet, oui, je suis un peu dépassé là. Mais bon, des humanitaires qui suivent un entraînement de ce type, moi personnellement, je n'en ai encore jamais rencontré. Ils le font aussi parce que c'est marrant, parce que fréquenter des gens de la DGSE et du GIGN, c'est exotique, c'est intriguant, c'est des gens impressionnants quand même. Et donc, bon, il y a un côté à la fois convivial, intriguant, piquant dans tout ça, qui, quand on a 21, 22 ans, ne fait que rajouter au plaisir, et puis...
C'est comme si... Il y a une mythologie chez les journalistes. C'est la mythologie du grand reporter qui est toujours sur des terrains de guerre, qui a un risque de se prendre un obus, enfin, vous voyez. Et, alors que ça représente une toute petite minorité des journalistes. La plupart, 99%, ils font un travail de bureaucrate à retraiter des dépêches AFP. Et je me demande si, de la même manière, il n'y a pas une mythologie de l'humanitaire, à savoir des humanitaires qui risqueraient en permanence leur peau, confrontés à des prises d'otages dans des endroits où il y aurait des tirs tendus, devraient être fouillés en permanence à des checkpoints, alors que peut-être, je sais pas, c'est un métier que je connais pas, mais 95% du temps ou pour 95% des gens, Enfin, c'est un travail tranquille, entre guillemets, mais enfin, où on risque pas sa peau tous les jours, quoi.
Ah oui, mais je trouve que votre parallèle se tient tout à fait. Heureusement que la plupart des actions humanitaires, y compris lorsqu'elles se déroulent sur des terrains conflictuels, même dans ces conditions-là, la plupart des organisations humanitaires œuvrent tranquillement, sont acceptées par les gens auprès desquels ils travaillent. Ils partent avec des idées totalement farfelues, voire paranoïaques, sur la façon dont on se met en sécurité dans une situation tendue.
On revient à ce stage, donc, dans la forêt de Compiègne, avec ces étudiants de cette école AA, de 3A, qui préparent des managers en ONG ou en entreprise. Et ce centre, GALIS, G-A-2-L-I-C-E, est présidé par Monsieur Gallois.
Roulez d'avant !
C'est quoi, le self-défense, là, c'est ça ? Aguerrissement.
Aguerrissement, oui.
Pendant qu'ils prennent un cours d'aguerrissement et qu'ils apprennent à chuter, que les étudiants apprennent à chuter sur le sol, vous prenez des photos avec votre petit appareil, là.
Oui.
C'est quoi le principe de l'école 3A ? Ça veut dire quoi, 3A, déjà ?
Au fond, 3A, au départ, ça voulait dire Afrique, les Amériques et l'Asie. Et nos anciens travaillent dans plus de 100 pays.
Donc c'est travailler à l'international, à la fois dans les entreprises multinationales normales et dans les organisations non gouvernementales, dans les ONG.
Dans tout type d'entreprise, parce qu'en fin de compte, une ONG, c'est une entreprise comme une autre, hein, maintenant. C'est une ONG a des problèmes de comptabilité, de fundraising, de recherche de fonds, de marketing, de gestion de mission. Donc ces jeunes, vous les retrouvez dans les grandes entreprises, les petites entreprises, mais comme je viens de vous le dire, dans les ONG aussi, qui sont des entreprises. Alors évidemment, comme certains se retrouvent dans des zones à risque, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le problème du rapt des cadres dans les entreprises, ça devient un véritable marché. Donc dorénavant, j'ai décidé de les aguerrir et je travaille avec Galis Sécurité depuis 3 ans. Je pense que la formation qu'ils ont là, ils l'oublieront jamais.
C'est une société dont votre fils Frédéric Gallois est l'un des cofondateurs et il était auparavant, avant de fonder GALIS, il était le responsable, le chef, je ne sais pas si on dit chef.
Commandant du GIGN.
Commandant du GIGN.
Jusqu'en 2008, oui.
C'est ça. Et donc, c'est le lien de père et fils qui est...
Oui, évidemment, ça joue, hein, le lien de père et fils. Mais vous savez, il y a quelque chose de fantastique au GIGN, c'est que le GIGN, leur préoccupation, c'est de protéger avant tout la vie, quelles que soient les vies, y compris, si possible, celle du terroriste et tout. Et je crois que c'est un peu aussi l'éthique. Le GIGN a une éthique, c'est ce que j'ai ressenti, parce que je les connais quand même, à travers mon fils. Et cette éthique-là, qui est la protection des autres, c'est aussi l'éthique de l'école 3A.
Vous-même, vous avez été dans l'armée, non ?
Moi, il y a longtemps, je suis plus tout jeune, donc tout ça, il y a longtemps, j'ai été dans les paras. Ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Pourquoi il y a la nécessité d'un stage d'aguerrissement pour devenir, faire du commerce à l'international ou travailler dans l'humanitaire à l'international ?
Je crois que ça a été, on a ouvert les yeux après l'attentat de Karachi en 2002, mais prenons l'Irak par exemple. L'Irak, c'est un Eldorado financier. L'Irak va être à reconstruire. Donc l'idée, c'est de préparer des jeunes qui seront capables demain d'aller vendre la France en Irak, qui est quand même pas une zone facile.
Si on regarde l'histoire de l'humanitaire, on imagine mal Ronnie Broman ou Bernard Kouchner dans les années 70, faisant le lien entre humanitaire, commerce et militaire.
Je crois qu'il y a toujours eu une nécessité de collaboration entre l'armée, entre les humanitaires. Alors c'est vrai que ce n'était pas l'esprit français, alors que les anglo-saxons avaient pigé bien avant qu'il fallait une collaboration, mais c'est pas l'esprit français. Mais depuis, le monde a évolué, le monde a changé, et les humanitaires sont conscients qu'ils ont besoin d'une collaboration avec les forces armées. Le contraire étant vrai aussi. Hein, le contraire étant vrai, les forces armées ont aussi besoin d'une collaboration avec les humanitaires.
Là, il y avait aussi pas mal de la DGSE, donc des services secrets.
Oui. Là, j'ai pris la douche.
On se recule parce que. Il y a pas mal d'anciens de la DGSE, des services secrets français qui sont ici.
Allô, oui. Votre camarade. Oui, Saskia. Allô, tu m'entends de Bali, là. Je suis à Compiègne, là. En plein soleil. Ben écoute, là, je suis en train de les voir à l'entraînement, là, tous les jeunes. Ça se passe très très bien, quoi. Ils sont arrivés ce matin et là, ils sont en train de... Et comment ça va à Bali ? Est-ce que je peux te rappeler sur ton portable ? Sur ton portable ? Bon, je te rappelle. À tout de suite. Ça m'est à Bali, j'ai commis de dire bonjour.
Elle est en vacances ou bien ?
Non, parce que j'ai un fils qui, qui dirige les services d'une grande banque mondiale à Bali, à Singapour. Donc elle est allée dire bonjour aux petits-enfants. J'ai des petits-enfants un peu de partout.
En garde ! Debout ! Roulez en avant ! Debout !
Il est évident qu'il y a un énorme contraste. C'est des jeunes étudiantes des classes supérieures, très sympathiques, le sourire, les longs cheveux, et qui là sont supposées prendre des cours de self-defense, d'usage de la Kalachnikov, du M16 et ainsi de suite. La bourgeoisie s'aguerrit avec un ancien du GIGN au crâne rasé, costaud comme trois comme nous.
C'est le commandement. En garde ! Vous êtes une attitude de combattant, là, sourire comme ça, hein ?
Ah non, la barre de l'eau, elle va le voir.
Et je mets une posture de combat, pas avec un sourire qui va jusque-là. En garde ! Les mains ouvertes, j'ai demandé. Les mains ouvertes, j'ai demandé. Comme ça. Et une attitude, voilà, une attitude méchante, là. Alors, qu'est-ce qu'on gueule pour se donner un peu de...
Lapin !
Ça, je vais aimer moyennement. Ça, je vais aimer moyennement. Donc, quand vous mettez en garde, je vais entendre un cri de combat, quoi. C'est ça ? En garde ! Bon, sans le sourire. Donc, je recommence. Et tant que j'aurai pas ce que je veux, je recommencerai. Hein. En garde ! Sans sourire. Je veux pas de sourire, là. En garde ! Roulez en avant. Plaquage au sol. Oh là 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 là.
Il y a les orties.
Regarde. Les doigts serrés. Je veux pas de sourire. Je veux un cri qui sort des tripes là. Je veux que vous fassiez peur à votre adversaire. Si vous faites un sourire avec un peu un petit cri. Là, c'est sûr que vous n'allez pas l'inquiéter, votre adversaire. Hein ? Plaquage au sol ! Debout ! Allez, ça dort, là, c'est mou tout ça. Hein ? Oh là là. Roule à l'avant ! En garde ! En garde !
Eh oui, on est loin évidemment des gentils French doctors. Il y a une phrase qui vous a peut-être frappé comme moi, c'est le président de cet organisme, Galis, qui fait cet entraînement, qui dit « L'Irak est un Eldorado financier ». L'Irak est un Eldorado financier. J'ai une pensée pour une amie qui s'appelle Walla et qui est irakienne et qui a subi cette guerre de la manière la plus atroce qui soit et qui, écoute, peut-être, a peut-être entendu cette phrase, l'Irak est un Eldorado financier. War is business. On retrouve Ronny Broman sur ce thème des ONG, de l'humanitaire, et de ce que l'humanitaire peut être ou peut être devenu.
Je relisais votre article que vous aviez publié dans Le Monde Diplomatique. Dans cet article, vous expliquiez que finalement, depuis Christophe Colomb jusqu'à la colonisation, et même avec Colin Powell, à chaque fois, l'impérialisme occidental s'est muni d'un bras gentil, qui ont été le christianisme, les droits de l'homme au XIXe siècle, les droits de l'homme avec la mission civilisatrice de la France au XIXe siècle, ou les ONG avec Bush et Colin Powell. Là, le fait que dès l'école, il y a un lien qui se tisse entre l'armée. Le président de cette école est également un ancien parachutiste qui me dit, de toute façon, il y a une collaboration dans les deux sens. Il y a une collaboration de l'armée avec les ONG et des ONG avec l'armée. Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, quel rôle vont être amenés à jouer ces humanitaires, quoi ?
Dans cet article, je mets en question les différentes formes, les différentes expressions d'un universalisme conquérant venant d'Europe. Ça a été l'universalisme religieux, l'universalisme scientifique, l'universalisme démocratique, disons les trois âges que l'historien Immanuel Wallerstein décrit. Et je pense que les organisations humanitaires doivent réfléchir à ce qu'ils entendent par universalisme, par droit de l'homme, par dans l'humanitaire, pour en discuter dans des termes qui sont ceux d'aujourd'hui, la notion d'ingérence, d'utilisation de la force pour imposer le droit, d'utilisation de l'armée pour imposer l'aide dite humanitaire. Tout cela a été défendu par un certain courant que Bernard Kouchner incarne, enfin dont il est d'une certaine manière l'icône. Alors si ces étudiants se réclament de Kouchner, au fond, Kouchner ne les prendrait sans doute pas sous son aile, parce que je doute qu'il aille aussi loin.
Mais... Bernard Kouchner est le parrain de cette école 3A.
Ben voilà, donc des liens effectivement se créent, et il y a une certaine logique dans tout cela, puisque en étant partisan du droit d'ingérence, je vous rappelle qu'il a défendu l'invasion de la Somalie et la guerre dite humanitaire qui a été menée là-bas pour, paraît-il, nourrir de force, enfin nourrir contre les miliciens, les affamés somaliens, jusqu'à la guerre d'Irak en 2003, qu'il a soutenue au nom des droits de l'homme, il y a une certaine cohérence. Mais cet humanitaire casqué, botté, cet humanitaire qui fonctionne en mettant la violence à son service, appartient à une tradition que j'appellerais impériale de la politique européenne, dans laquelle d'autres humanitaires ne sont pas obligés de se reconnaître. Et je défends, pour ma part, un humanitaire qui se démarque radicalement, totalement, de cette démarche-là. Alors il faut au moins que ces étudiants, s'ils étudient bien, sachent qu'il y a plusieurs conceptions de l'humanitaire. On n'est pas en guerre les uns avec les autres, mais on est en débat, on est en confrontation, et on ne peut pas défendre les deux options à la fois.
En fin de compte, une ONG, c'est une entreprise comme une autre, hein, maintenant. Donc ces jeunes, vous les retrouvez dans les grandes entreprises, les petites entreprises, dans les ONG aussi, qui sont des entreprises.
Pour faire une bonne guerre, les ingrédients sont là, tu vends bombes et pansements, tu spécules les dégâts, les outils, c'est pompant, du plouc et tralalère, des bons et des méchants, des balles chirurgicaires, faut choisir le pays en fonction de ce qu'il a, pétrole ou énergie, diamant, plein d'éclats, une petite guerre civile, et nos préliminaires, une place sur l'échiquier, pour de futures affaires, futures affaires, ouais. D'islam ou de terreur, le régime ne plaît pas, un chef qui ne bouge pas, qu'on peut montrer du doigt, pour faire chuter l'oignon, un bon bouc émissaire, un combat héroïque, peuple minoritaire, c'est maintenant qu'intervient, pour assurer papa, virtuel ou réel, un feuilleton cinéma, on sauve un bébé rose, sur un chalier de mer, en avant le départ, en arrosant de pierre, ouais. Et signer des contrats, des prêts, des plans de l'or, des béquilles, du cola, 1000 ans pour rembourser à des jolies caissières, des soldats déguisés, un bon bourgeois qui gère.
Mais prenons l'Irak par exemple. L'Irak, c'est un Eldorado financier. L'Irak va être à reconstruire. Donc l'idée, c'est de préparer des jeunes qui seront capables demain d'aller vendre la France en Irak, qui est quand même pas une zone facile.
Ma patrie est une pute qui ne change pas ses draps, qui loge en son plumard affairistes et soldats, qui paye de ses amènes les kermesses des compères de l'eurocapital. Yankee ! Et en est fier. L'Europe des vieux bourreaux lèche ses bottes d'apparat. Elle justifie mon or en mort de bon aloi. Si je paye en euros mon club génocidaire, qu'il assume son business dans une pleine lumière. L'image n'est pas le vrai, le choc n'est pas débat. La viande à vendre éclate en fontaine de nougat. Les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire des pissotières. C'est une chanson sans vie sur un petit air sympa. Si je la recommence, j'attrape la langue de bois. Excusez-moi du peu, mais il faut qu'elle s'y gère. Le trafic est mouvant, les guerres humanitaires. C'est pas le vrai, le choc n'est pas des balles, la viande à vendre éclate en fontaine de nougat, les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire des pissotières, la pire des pissotières, la pire des pissotières, la pire des pissotières.
Et qu'est-ce que tu veux faire après toi?
Gestion de crise.
Dans le développement ou dans le...
Non, gestion de crise.
Gestion de crise, ah oui, d'accord.
C'est là-dedans bon, bah, que ça, je fais mon stage.
C'est quoi, c'est...
Bah, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'entreprise de continuer à marcher du point de vue humain, matériel, etc. Tout prévoir d'un point de vue procédure, process. Si on a une grève qui nous empêche d'accéder à l'entreprise, comment on fait pour la faire marcher de l'extérieur et pas poser des problèmes à nos clients?
Comment on fait pour mettre en route une deuxième usine qui est pas...
Par exemple. Qu'est-ce qu'on prévoit comme lieu de repli pour tous les services? Comment est-ce qu'on passe sur un autre standard?
C'est sympa comme boulot alors?
Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis ça change tout le temps, quoi.
Le maniement de la Kalachnikov au siège...
On ne sait jamais, on ne sait jamais.
C'est si vraiment la grève tourne très mal, quoi.
Voilà, ça peut être utile.
C'était Les Petits Soldats de l'Humanitaire, nouvelle version d'un reportage de François Ruffin diffusé pour la première fois le 4 mai 2010. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand, Bastien Varigo et Stéphane Poitevin, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic et c'est Marion Dupas qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Après la guerre est déclarée, France Inter présente Main dans la main en DVD, Blu-ray et VOD. Un sortilège étrange unit deux êtres que tout oppose au point qu'ils ne peuvent pas se séparer. Une comédie drôle et poétique avec Valérie Lemercier et Jérémy Elkaïm. Main dans la main de Valérie Donzelli en DVD, Blu-ray et VOD France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition Dynamo, actuellement au Grand Palais à Paris. Plongé dans un siècle de lumière et de mouvement dans l'art à travers les œuvres de quelques 150 artistes contemporains. Calder, Vasarely, Kapoor, Veillant, Morlaix, Leparc et tant d'autres. Dynamo, une exposition inédite et originale pour découvrir, s'étonner, expérimenter, s'étourdir. Retrouvez l'exposition Dynamo dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de la folle histoire des arts de la rue du 3 au 20 mai. Plus de 50 représentations gratuites en espace public à Marseille et dans 5 communes voisines. Au programme, ballet de tractopelle, danse, parcours d'art contemporain, 15 jours de découvertes artistiques à ne pas manquer. Avec les 3 et 4 mai, une balade poétique et unique autour du Vieux-Port de Marseille. Retrouvez le festival La Folle Histoire des Arts de la Rue dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, c'est avec Maxime Deps. Bonjour Maxime.
Bonjour. Dans une heure, il n'y aura sans doute aucun suspense, mais l'instant n'en sera pas moins solennel, et ce au moment où, par leur vote, les députés donneront leur feu vert au texte autorisant le mariage homosexuel. La France deviendra alors le 14e pays au monde à franchir le pas. Sans surprise, la gauche dira oui. À droite, certaines voix s'abstiendront ou voteront également pour. À l'UDI, par exemple, 5 députés ont notamment fait savoir cet après-midi qu'ils voteront en faveur du texte. Les parlementaires UMP, eux, pour leur part, préparent leur recours au Conseil constitutionnel qu'ils déposeront soit dès ce soir, soit demain dans la matinée. L'Union européenne, à son tour, condamne dans les termes les plus forts l'attentat à la voiture piégée qui a visé ce matin l'ambassade de France à Tripoli. Les autorités de Libye annoncent de leur côté avoir renforcé la sécurité autour des intérêts français dans le pays. L'explosion à l'ambassade de France a fait 2 blessés et d'importants dégâts. Toute la lumière devra être faite sur ces événements, a prévenu ce matin François Hollande avant d'envoyer sur place Laurent Fabius. Le ministre des Affaires étrangères est en route, tout comme un groupement du GIGN qui sera chargé de veiller sur la sécurité sur place des ressortissants. La prison, il connaît. Il y a passé 7 longues années pour un meurtre qu'il n'avait pourtant pas commis. Et avant d'être acquitté finalement, c'était il y a 5 mois à peine, et bien Marc Machin devrait y retourner en prison, cette fois pour des faits avérés. Une affaire de vol de portable qui lui a valu de comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Une peine de 8 mois, dont 5 avec sursis, a été requise à son encontre. Confronté à de fortes turbulences et incapable de régler ses dettes, le comité central d'entreprise, le CCE d'Air France, est en cessation de paiement. Placé cet après-midi en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Bobigny, le CCE d'Air France gère les activités sociales et culturelles des quelques 50 000 salariés de la compagnie aérienne. L'organisme avait été sauvé in extremis de la cessation de paiement en juillet 2012 grâce au vote d'un plan de départ volontaire. Les hauts fourneaux de Florange, c'est bel et bien terminé. La procédure d'extinction de ces hauts fourneaux débutera demain. Elle prendra en tout 2 jours, cette procédure, annoncée aujourd'hui par la direction d'ArcelorMittal. Les hauts fourneaux seront ensuite mis sous cocon. C'est la fin d'un symbole, d'un combat de salariés désespérés qui avait animé la dernière campagne présidentielle. Que l'UMP désigne NKM et que la campagne débute dès maintenant, la phrase est d'autant plus surprenante qu'elle émane de Rachida Dati dans une interview interview au magazine Le Point aujourd'hui. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy renonce à la mairie de Paris pour laquelle elle se battait pourtant depuis des mois. Elle se retire de la campagne. Rachida Dati estime que Nathalie Kosciusko-Morizet, jusqu'ici sa rivale, a déjà été choisie par le système et les médias. Fin de citation. Rachida Dati qui demande l'interdiction d'une BD à paraître jeudi. La bande dessinée en question, elle la met en scène, elle ainsi que sa fille Zora de 4 ans. L'album intitulé « Au nom des pères » traite sur le ton de l'humour et de la caricature de la recherche de la paternité de l'enfant de l'ex-ministre de la Justice. Justice qui se prononcera demain sur la question.
Mardi 30 avril, à partir de 21h,
concert exceptionnel d'Al Jay,
en direct sur France Inter.
Les quatre garçons d'Al Jay mettent le cap sur le studio 105 de la Maison de Radio France et vous présentent leur dernier titre en direct et en public.
Pour assister à cette soirée unique, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr. Let's dance
late. Al Jay, en concert
avec Deezer
sur France Inter. Let's dance
late. En direct du studio 105,
mardi 30 avril à partir de 21h.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
France Inter,
la voix est libre.
16h04 sur France Inter, tout de suite vous le savez, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Maxime Debs, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Merci d'être avec nous. La musique de film nous occupe fréquemment et puis l'approche assez nette quand même du Festival de Cannes va nous tenir en éveil. Et on a publié un disque autour de Nino Rota. C'est un personnage très intéressant. On connaît sa musique pour Le Parrain. Enfin, les plus jeunes connaissent Le Parrain. Les plus anciens connaissent aussi les musiques pour le grand Fellini. Et Nino Rota est un musicien qui a été formé à la dure, véritable compositeur, et il a tenu toute sa vie à le faire savoir. Donc a publié aussi des œuvres dites symphoniques, des œuvres classiques. Voici un exemple typique, parce que la fugue, c'est vraiment un exercice pour les gens très aguerris. Donc de Nino Rota, une fugue pour quatuor, orgue et orchestre à cordes sans indication de tempo. C'est-à-dire que quelquefois on met allegro, quelquefois on met allegretto, et là, bah, il suffit de le trouver naturellement, ce qu'on appelle en italien le tempo giusto, tempo juste. Une fugue pour quatuor à cordes, bien sûr, orgue et orchestre à cordes de même, de Nino Rota, et sans indication de tempo. C'était interprété par l'Orchestre Symphonique de Milan, appelé Giuseppe Verdi, bien que le Conservatoire de Milan ait refusé le compositeur en son sein, je le rappelle toujours, et le chef était Giuseppe Grazioli. Autre pièce de Nino Rota maintenant, mais c'est de la musique de film. C'est en 1949 qu'il y a eu un très grand succès pour cette BO, comme on dit, cette bande-son, mais là c'est une suite qui a été écrite écrites pour donner en concert, mais ce sont les mêmes thèmes qui sont repris. Donc, c'est la légende de la montagne de verre. Et là, Nino Rota montre tous ses talents d'écriture, mais aussi un grand lyrisme, une patte descriptive, on peut dire. C'est sûr qu'il était fait pour faire de la musique traditionnelle, de la musique symphonique, mais on l'aurait bien regretté s'il n'avait pas abordé le cinéma.